RMC.
PLM et toutes les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ah, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
RMC, Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, que c'est bon!
Nicolas Villas.
Et c'est parti pour l'after, on est ensemble pendant une heure, on est ensemble donc jusqu'à minuit. Comme quoi j'ai révisé mes maths avec Ali Benarbia, avec Ludovic Obraniak, vous êtes là les mecs. Ça vient de se terminer, Marseille s'est incliné, vient de s'incliner à Reims, 2-1. On rappelle les buteurs, Dingomé 21ème, Souk à la 68ème, et Senji qui a marqué pour l'OM à la 81ème. Un peu plus tôt ce soir, Angers a battu Dijon 1-0, Monaco a battu Toulouse 2-1, Rennes a battu Amiens 1-0. Avec ces résultats, Reims est 7ème de Ligue 1 avec 3 points d'avance sur Marseille. Marseille qui est 10ème de Ligue 1 en bas de tableau. On a Monaco qui est 18ème. Ils sont barragistes les monégasques du coup avec ce résultat. On a notamment Rennes également qui est 9ème, qui a 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Sale opération vraiment pour les Marseillais, supporters de l'OM. On vous attend au 32-16. Bien entendu, cet après-midi, Nantes a battu Sannois-Saint-Gratien en 16ème de finale de Coupe de France. Sachez que le Celta a battu Séville tout à l'heure 1-0 et que la Juve et Parme ont fait match nul 3 partout. On va débuter cet after par le plus important. Et le plus important, bah c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Tiens, t'es Ludo, tes 3 points ce soir.
Ben, côté marseillais, rien de nouveau sous le soleil, hein. Toujours les mêmes difficultés. Tu coules doucement, mais sûrement. Donc, j'ai dans cette émission souvent pris la défense de mon ex-coach. Aujourd'hui, je vois pas d'autre solution pour créer quelque chose. Mais on peut, les 5 dernières minutes de l'Olympique de Marseille sont incompréhensibles. Par rapport au reste du match, c'est-à-dire qu'il y a une frilosité, un manque de confiance et un manque d'ambition, alors que tu es actuellement 10ème et que tu n'as plus rien à perdre, qui t'amène à être dans cette situation-là. Et bon, il faut du changement du côté de l'OM. Reims, mettre en lumière bien sûr cette équipe de Reims, c'est le travail de Guillon et Dumont. Et troisième point vite fait, Monaco, victoire importante, mais dans la douleur malgré tout. Voilà.
Oui, attention, avertissement, Jérôme Thuram souffle dans l'oreillette, non respect du timing.
Bon, je vais faire attention.
Sur le coup, là, deux cartons jaunes.
Oui, bon,
je
crois. Ouais,
il prend le rouge.
Là, bien débordé, là, tu t'as fait exprès en plus. Allez, tes 3 points.
Trois points exotiques. Le premier point, on va parler de Monaco.
Ah, c'est exotique, oui.
Dans la douleur et dans la sueur, Ja Dien, il a réussi à récupérer 3 points. Ja Dien.
Pourquoi tu dis comme ça?
Je sais pas.
C'est Ing.
Ah, Ing.
Ing. Non, pas Ing. Ing.
In
Jardin.
Jardin. C'est mieux comme ça.
C'est avec l'accent rebeu, l'autre. Ok, donc vas-y.
Et comment tu le dis alors?
Jardin.
Tu sens vraiment une grosse différence,
bien
toi,
sûr.
Ludo? Jardin.
Ouais, attends, parenthèse dans les 3 points, mais c'est important.
Bon, vas-y. Voilà. Jardin.
Ouais, c'est pas long.
Ouais, bon.
Bref.
Bon, Monaco, dans la sueur et dans la douleur. Et dans les 5 dernières minutes, c'était fort à l'amour. Heureusement, il récupérait 3 points. Et même ça, c'est pas suffisant. Deuxième point, je vais parler de l'équipe nationale du Qatar.
On en a parlé hier, on était avec un auditeur d'ailleurs qui a regardé la finale.
Qui a gagné le championnat d'Asie, ouais. Et j'en parlais il y a à peu près 5-6 ans, et que tout le monde rigolait parce que en dehors de recevoir la Coupe du Monde, ça ne servait à rien. Ben là, ils ont démontré qu'il faudra compter sur eux. Cette équipe-là, d'ici à peu près 3 ans, sera prête pour représenter le golf. Et troisième point, je vous conseille de regarder le reportage magnifique d'Olivier Dacourt sur le racisme. C'est à voir et à revoir.
Je vous donne mes 3 points également ce soir. Oui, et t'as raison, il est très bon le docu.
Ah, j'ai adoré.
Voilà, sur le racisme. Ouais,
j'ai adoré.
Voilà, qu'on salue Olivier Dacourt. Bah Marseille, ça bricole encore. Alors ça brûle, oui, la maison brûle, mais ça bricole encore. C'est vrai que on en parlait pendant le match, mais les choix de Garcia, de mec des joueurs qui sont par leur poste. Alors oui, il y avait des absents aussi.
Et puis au-delà de ça, la riposte. C'est-à-dire que
juste, ça te dérange pas, je vais finir mes 3 points.
Mais oui, mais j'essaye de te faire prendre un carton.
Non, mais ça va aller.
Troisième carton.
Monaco, bah le réveil, parce que enfin Monaco a gagné. Il était temps, même si ça n'a pas été simple. Hein. Franchement, ils ont eu de la réussite. Hein, le poteau de Dourmaz, etc.
Ah, l'action qu'ils ont
fait. Ouais, ça a été compliqué. Et alors mon dernier point, bah c'est PSG, enfin Lyon, Paris Saint-Germain, le match de demain. Alors le match qui a commencé, mais pas forcément sur le terrain qu'on apprécie le plus, mais c'est sur celui de la com. Alors là, il y a entre les échanges verbaux qu'il y a eu entre certains dirigeants, maintenant les communiqués de presse qui sont envoyés février. Vous savez, ça me rappelle, vous savez que souvent moi je milite contre le clubisme, ce qui est en train de pourrir le foot au Portugal et qui entraîne pas mal de violence. Là, c'est bien, continuer les mecs. Vous êtes en train de faire ça. Voilà, vous êtes en train d'attiser la violence, une forme de violence verbale, etc. Enfin, des, tu sais, du pipi de chat, de faire ah non, c'est pas moi, c'est toi. Enfin, ça n'a aucun sens.
Est-ce que c'est parce que peut-être qu'on en parle pas autant de cette OLPG et qu'on parle plus de Marseille, hein, Monaco, des problèmes de Marseille et de Monaco, et du coup ben notre ami Olas n'est pas trop content parce qu'on parle pas de ce fameux match de gala pour remplir le Groupama et remplir les journaux. Ben non, on parle pas d'OLPG. On va parler de Neymar pour sa blessure, Verratti, du fameux joueur qui était censé venir, mais on parle pas, j'ai pas du tout entendu parler de ce match OLPG, je sais pas vous.
Ah oh, si quand même, c'est excitant quand même.
On en parle.
Ouais.
Mais est-ce que c'est vraiment une affiche? Est-ce que tout le monde attend ce match? Non.
Moi je l'attends, Ali.
Oui.
Si Lyon perd, ils sont déjà 6 points de Lille, de la deuxième place. Si Lyon perd, ça devient compliqué.
Je sais, mais on attendait quoi? Monaco, c'est chaud, ça brûle. Marseille, c'est chaud, ça brûle. C'était surtout ça.
Mais est-ce que t'as toutes les infos qui arrivent du côté de Monaco? C'est ça la question.
C'est-à-dire?
Vous avez la TNT et tout là-bas ou ça va?
À Monaco? Bah TMC.
Ah bah oui.
TMC.
RMC, Radio Monte-Carlo. Bien entendu. Allez les gars, on va analyser le match entre Reims et Marseille qui vient de se terminer. Le stade de Reims qui s'est donc imposé 2-1. Dingomé buteur à la 21e, Souk à la 68e. Senji qui a marqué pour l'OM à la 81e minute de jeu. Marseille qui donc est 10e de Ligue 1. Reims est passé devant et a pris 3 points d'avance. Reims qui est 7e ce soir. Marseille qui est à 9 points du podium puisqu'on en parlait il y a quelques instants.
Est-ce qu'il a pas battu le record Souk entre le moment où il est rentré où il marque?
Ah je sais pas, il y a quand même eu il y a dû y avoir plus rapide.
On n'a pas eu le temps de le voir entrer qu'il avait déjà marqué parce que
c'est vrai qu'il marque vite cela.
On écoutait en même temps et d'un coup but de Souk.
Alors Reims, on va en parler, supporters du stade de Reims, on vous attend aussi. Belle dynamique pour le stade de Reims, 8e match en défaite pour les Rémois. En revanche pour Marseille, alors qu'il restait sur une défaite face à Lille, qui avait gagné avant face à Caen, ça fait une victoire sur les 12 derniers matchs toutes compétitions confondues pour l'OM, ça devient urgent, ouais, compliqué
non,
pour
oui, ça fait un moment que c'est urgent.
Au niveau comptable, ils n'étaient pas à la rue, Ali, jusque-là.
Mais là, par contre, on le regardait progressivement.
Non, en termes de jeu, je suis d'accord. Mais...
Non, même pas en termes de jeu. Je sais pas du tout ce que nous a fait Rudy, d'une, dans la composition de jeu. Après, dans les changements, on l'a dit, hein, sortir Rolando, sortir Balotelli. Balotelli, tu l'as recruté. Si le mec, il est pas prêt, après tant de repos, à pouvoir jouer un match 90 minutes tranquillement et en se plaçant devant le but... Il se blesse pas, mais t'en as besoin, tu le payes pour ça. Tu vas pas dire.
Mais s'il est pas bon, Ali, tu vas pas le laisser 90 minutes. C'est le mec, il a pas 90 minutes.
Non, mais tu perds 2-0. T'as pas besoin d'un bon Balotelli.
Mais tu vas faire quoi? Alors, tu perds 2-0, tu prends le risque que le mec se pète ou quoi? Pour l'avoir d'absent pour les prochains matchs.
Faut pas rêver. C'est pas avec les matchs qu'il a joué ou pas joué qu'il va se blesser. Faut arrêter. Le joueur ne se blesse pas comme ça.
Ah, bah, je sais pas, hein. Le joueur. Hier, Monaco, cette saison, les mecs, ils se blessaient comme ça. Hein.
Non. C'est bizarre.
Non, c'est bizarre. Oui,
Je sais pas ce qu'ils ont trafiqué, Monaco. Mais avoir autant de joueurs, c'est pour autre chose.
Non, mais c'est vrai que Timothée le disait. Garcia l'avait annoncé. Il a pas la condition physique pour jouer plus d'une heure. Il a joué 75 minutes. Donc, il a même laissé plus longtemps que ce qu'il espérait. Rudy Garcia.
Bah déjà il se trompe là.
Le problème c'est de recruter un mec qui est pas prêt physiquement. Ça oui, d'accord.
Ah ben ça il le savait. Mais à ce compte-là, fais confiance à Germain, à NG, et dans les dernières minutes, tu fais rentrer la rigueur Balotelli comme tu l'as fait, ou tu le fais jouer un peu plus de tas. Et si tu le fais jouer, on en parlait avec Ludo, tu le mets avec Germain, tu le mets avec NG, et là c'est beaucoup mieux.
Ludo.
On a fait hein, l'historique du match où je comprends pas la frilosité de la compo de départ où on l'explique, Balotelli est pas forcément dans sa meilleure forme et tu le laisses tout seul devant avec des latéraux. Donc on l'a dit, Camara défenseur central gauche, défenseur central qui joue côté gauche et pas gaucher. Et comment tu fais pour recevoir des ballons dans la surface de réparation? On voit sur la première mi-temps, il a pas été très mobile, Balotelli. Autour de lui, Campos et Radonjić, ils rentrent beaucoup à l'intérieur aussi. Donc il y a une espèce de cafouillis au milieu. À partir du moment où tu commences le match, t'es 9e ou 10e, et qu'est-ce que t'as à perdre de plus? T'as plus rien à perdre. Joue ton va-tout, joue l'offensive. Et bon, ça a été le cas sur le match de Lille et sur ce premier quart d'heure aussi, où j'ai trouvé l'OM fringant, qui a essayé d'aller de l'avant, mais ça dure 15 minutes. Ça dure 15 minutes.
Toujours.
Et puis après, une fois que tu perds 1-0, prends des risques à la mi-temps, fais rentrer un deuxième attaquant, NG, Germain, vas-y, t'as plus rien à perdre, vas-y. Et au final, tu t'exposes à prendre un deuxième but, tu le prends sans avoir réagi. Mmh. Donc c'est d'autant plus frustrant.
Non mais moi je suis un joueur de l'Olympique de Marseille. Je suis à ma vie admettons. Je vois qu'il y a personne à gauche et qui me met un Camara, même si je suis pas bon. Ben automatiquement ça démotive tout cet effectif, tous ces joueurs, que tu mettes absolument tout le temps Gustavo dans l'axe alors qu'il ne sait pas jouer dans l'axe, il peut dépanner, mais son meilleur poste à lui et où il peut apporter à Marseille, c'est dans l'axe. Mais sous prétexte qu'il va absolument faire jouer Strootman, il se dit si je mets Gustavo, ben automatiquement je vais avoir le milieu de terrain bouclé.
Et
je suis désolé.
Et ce match met aussi en lumière que bah forcément Florian Thauvin, dès qu'il est pas là, il fait 80% de l'équipe et depuis trop longtemps maintenant, c'est-à-dire qu'il y a que ce joueur qui se met au niveau. Bon après bien sûr hein, je trouve que Strootman revient quand même pas trop mal. Gustavo derrière je le trouve pas bon.
Je suis sûr
qu'au milieu il serait bien meilleur.
Il apporterait plus.
Mais cette équipe est dépendante d'un ou deux joueurs et les autres ne se mettent pas au niveau donc ça peut pas fonctionner.
Tiens les gars, on va accueillir Yacine, supporter de l'OM qui nous a appelé au 32-16. Tiens, vous pouvez me le brancher Yacine parce que merci à lui Yacine.
Oui, salut tout le monde, bonsoir.
Salut Yacine.
Alors Yacine, c'est toujours un plaisir de vous entendre.
Bah écoute, ça me fait plaisir que tu sois là aussi Yacine.
Ça va pas du tout, je suis énervé, je vais tout casser. Non mais là c'est même plus la peine. Faut arrêter la supercherie. C'est une supercherie, c'est pas possible, il y a un problème là. Il y a un putain de... Oh, ma femme, elle veut plus que je regarde la télé. Elle m'a dit, t'arrêtes. Mais non, mais c'est pareil pour tout le monde. Le Garcia, il transmet sa frustration. Regarde, j'ai même plus à parler à tous les joueurs. Tu le vois, les mecs, ils sont frustrés. Il y a un problème.
Il est rempou, hein.
On s'est lâché à 2-0. Ouais.
Yacine, apparemment, Rudy Garcia, il arrive à les rendre fous parce que il fait jouer des joueurs qui sont pas à leur poste. Il attend vraiment le dernier moment que devant ils arrivent pas du tout à marquer parce que comme dans sa tête il pense que à la fois Ng et Germain ils sont bidons, mais il a attendu vraiment le dernier moment pour les faire entrer et on a vu que ils sont pas si bidons que ça. Mais, puisque la preuve, à moins de 15 minutes, Ng, ils ont failli ici revenir à 2-2, à eux deux pratiquement, à bouger tout le monde devant, ce que n'ont pas fait les autres.
Il est frustré, Rudy Garcia est frustré, il se chie dessus, désolé, il se chie dessus, d'accord, de sauter. Qu'est-ce qu'il fait? Il transmet ça à tous les joueurs, vous avez vu le match au début? C'était hallucinant. Reims, ils nous ont même pas respectés, faut dire la vérité, ils étaient là, ils bougeaient pas, on fait peur à plus personne. C'est pas compliqué.
Et encore,
c'est fini.
Ils ont baissé de rythme et de tempo à 2-0. Ils auraient pu dire, on continue à accélérer. La chance, c'est juste qu'ils ont baissé à 2-0. Et encore, ils ont encore des belles occasions à 2-0.
Mais Yacine, c'est quoi le problème d'après toi? Parce que c'est vrai que là, on le disait, c'est pas 2-3 matchs. Ça fait une douzaine de matchs que Marseille a pas de résultats. Et c'est vrai qu'en termes de contenu, on peut même aller au-delà de ça, même. Ouais. Mais c'est quoi le souci, selon toi,
Nico,
Yacine?
C'est bien ce qu'a dit Yacine. C'est qu'il leur transmet cette peur. Ouais. Et c'est qu'il n'est pas du tout sûr de lui, il le transmet aux joueurs.
Vas-y, oui, Yacine. C'est n'importe quoi, mais c'est ça, c'est exactement ça. Il transmet sa frustration et en plus, comme vous avez dit là juste avant, il te met Camara à gauche. À ma vie, il le met sur le banc. Mais qu'est-ce que tu veux, le mec, il est motivé.
Ça y est, c'est fini.
Mais Nico, mais ils sont largués. Et Gustavo, mais putain, mais tu vois là, j'ai envie de tout casser. Gustavo, tu le mets derrière, t'as pété les plombs, quoi.
Ça fait trop longtemps qu'il est derrière.
C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le mec, il est gaga. Le mec, il est gaga. On le laisse chez nous. Chez nous. On est l'Olympique de Marseille. On le laisse chez nous, comme ça. 12 matchs, là, c'est ça, sans défaite.
Non, une victoire sur les 12 derniers matchs.
Non, mais le problème, c'est que tu l'as prolongé il n'y a pas si longtemps que ça. Au moment où ça va pas.
On s'en fout, 11 millions, on s'en fout. Faut le dégager, il va nous tuer tout le monde. Moi, ça y est, j'arrête mon abonnement, tous mes abonnements, là. Peut-être pas chez vous, mais j'arrête tout. Mais c'est même plus la peine. C'est même plus la peine, les gars. Et plus personne nous respecte.
Abonne-toi à Martigues.
C'est catastrophique.
Abonne-toi à Martigues, Yacine.
Non, mais c'est vrai qu'on.
Non, mais blague à part, sérieusement, regardez, la vérité, c'est ça. C'est qu'il gère très mal, je pense, dans le WC. Vous avez entendu là, Gustavo, à la fin du match? Je peux pas trop parler. C'est bizarre. C'est bizarre qu'il ait dit ça. On dirait qu'il se contenait de dire quelque chose. Mais il transmet sa peur aux joueurs, il fait n'importe quoi dans la composition d'équipe. Les joueurs, ils arrivent sur le terrain, ils veulent gagner, mais attends, Balotelli, là, il a rien eu. Le pauvre, il a pas eu de ballon.
Ça dure 15 minutes, t'as remarqué, Yacine. Yacine, ça dure 15 minutes, le temps juste de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas.
Ah oui, mais dès le début, on n'a pas compris. Déjà, quand tu vois la composition d'équipe, ouais. Et même, la petite parenthèse, moi, je suis pas entraîneur, je suis pas tout ça. Mais quand je fais rentrer Balotelli avec les Tonenji, les mecs, ils se connaissent même pas, ils se font des talonnades dans le dos, ils se trouvent une, deux, tac, tac, il a touché six ballons, et le mec, il plante un but, ben, je le mets.
Mais il y a un truc qui est important aussi, Yacine, parce que c'est vrai qu'on est en train de parler du fait que bon, peut-être que Rudy Garcia transmet une certaine frustration à ses joueurs, mais parlons un peu aussi de l'état mental des joueurs, au-delà de la dynamique sportive qui est pas bonne, mais parlons du mercato, parce que bon, Mitroglou est parti, ok, Germain il devait se barrer, au final il est là et bah il joue pas, il est pas titulaire puisque c'est Balotelli qui joue à sa place. Donc en fait t'as un mec qui était à ça de se barrer, qui s'est pas barré parce qu'il y a eu un changement de direction à Nice. Voilà, il est déjà plus là. Tu le disais aussi à l'instant, Yacine, Amavi qui est un vrai latéral gauche, qui est le seul latéral gauche de métier, qui est pas titulaire, il met Camara à sa place. Gustavo, moi, alors tu sais quoi, tu parlais de Gustavo, Yacine. Moi il y a une question que j'aimerais poser à Luis Gustavo, c'est est-ce que toi ça te plaît de jouer à ce poste-là?
Pas du tout.
Mec, est-ce que toi jouer défenseur central, ça te va?
Pas du non, ça lui va pas, et ça lui plaît pas.
Le pauvre.
Et en même temps, tu parles de Sakai, mais depuis que Sakai il est pas là.
Oui, il y a Sakai aussi, ouais.
Ça devient aussi encore une catastrophe sur les côtés, hein, parce que Bounassar, on le reconnaît.
Il va revenir, mais
non, mais Bounassar, on le reconnaît même plus. Là, il m'a fait du, encore aujourd'hui, il m'a fait du n'importe quoi.
Tu sais ce qui est flippant aussi, c'est quand tu regardes la somme finalement totale dépensée depuis le début de l'arrivée du nouvel actionnaire, et quand tu mets les joueurs en face, et mais tu te dis,
où est l'argent?
Non, tu te dis pas où est l'argent, mais tu te dis, mais bah, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent?
C'est-à-dire
qu'est-ce qu'on a en face?
Où j'ai dépensé mon argent?
Ouais, mais
je suis l'américain, je regarde cette équipe face à Lille, je dis, sorry, my team is red. Non. C'est les Marseillais. Oh, something wrong.
Il est bon, le Ali.
Tu peux nous faire un peu d'anglais, là, parce que.
Yeah, something wrong.
Donc, ça veut dire que ma courte, il s'est complètement gouré.
Bah, il s'est pas.
Il va dire, Galtier est Marseillais.
Est-ce que Galtier est Marseillais?
Bah, c'est bizarre.
Est-ce que tu penses que c'est ma courte qui, c'est lui qui met l'argent, mais c'est pas lui. Il comprend rien au football. Donc,
non, mais attends, vous vous souvenez? Attends.
C'est pas lui qui a été dire, on va chercher tel joueur, on va chercher tel joueur.
Il y a eu cette interview qui a fait ma courte, je crois que c'était dans la Provence, là, il y a quelques jours. On lui demande, non, on lui pose la question.
Exactement.
On lui pose la question, mais au final, pourquoi vous avez prolongé, Rudy Garcia à ce moment-là de la saison? Et dit, attendez, moi, le quotidien, moi, je fais pas du mini management, le quotidien, c'est Jacques-Henri Hérault qui le gère, c'est à lui qu'il faut poser la question, et en gros, la fin de la saison, on discutera, et on verra ce qu'il en est, quoi.
Ah, mais quand tu prolonges, c'est pas la fin de la saison que tu vas discuter.
Ah, bah là, c'est arrivé, à la fin de saison, il termine 10e, ou même au-delà, ou même, peut-être même 8e, 9e, c'est pas bon, il va aller voir Jacques-Henri Hérault, lui disant, je comprends pas, là. M'as demandé de mettre temps, et au final, on est temps au classement.
Non, mais ce que je comprends pas,
pourquoi on a prolongé?
Je vois beaucoup de prolongations qui se font à ce moment-là. C'est incompréhensible. Si tu prolonges, c'est 2 voire 3 mois avant la fin de la saison, que tu sens qu'il est dans ses objectifs, ou on se voit la fin de saison.
On a toujours l'auditeur avec nous?
Yacine, il est là. T'es là, Yacine?
Oui.
Plutôt que ce soir, quel est l'intérêt d'aller prêter le petit Rokia à Sochaux?
Je comprends.
Mais on est d'accord.
Des échos que j'ai, c'est un très bon joueur. Pourquoi tu ne l'aimes pas? À ma vie, fais pas l'affaire. Camara, c'est une aberration de le faire jouer là. Tu vas le tuer, le petit, à force. Tu vas le tuer.
Tu lui as fait croire qu'il s'est
T'as plus rien à perdre. Lance-le, jeune.
Ludo, je peux te poser une question?
Vas-y.
Tu vois, parce que vous avez parlé justement des recrues, de l'argent dépensé, etc. Regardez vraiment l'effectif de Marseille. Il est magnifique. C'est Garcia qui est en train de tout pourrir. On a des joueurs, ok, bon, des recrutements, Strootman, on s'en fout. Ça joue bien. Le mec, tu vas pas me dire, il sait pas jouer avec un ballon. Mais quand le mec, il arrive déjà, il arrive dans une atmosphère assez tendue, les vestiaires, l'argent, les salaires, etc. Si derrière, t'as l'entraîneur aussi qui est frustré, plus les supporters, il faut au moins avoir un mec dans le vestiaire qui les porte. Ouais. Lui, il les porte pas, Garcia.
Il les porte plus. Il les porte plus.
Il porte plus rien. Ouais.
Non, mais le problème, non. T'as raison, Yacine, s'il les porte plus, mais ne les enfonce pas. Le problème, c'est qu'avec sa frustration, il est en train d'embrouiller tout le monde.
Non, mais...
Il essaie de les suivre.
T'as dit le mot, c'est embrouille, parce qu'il les porte plus, mais on a l'impression, alors c'est vrai que c'est des écoles, que certains ne le supportent plus aussi.
Ah oui.
C'est surtout
ça
le problème.
C'est ça le problème. Et c'est humain, hein. C'est-à-dire que quand après, un entraîneur n'a pas l'emprise sur son équipe, et qu'ils sentent qu'ils veulent le faire un petit peu à leur tête, il y en a soit ils disent, eh ben c'est bien, ils se prennent en main, et t'en as d'autres qui ne supportent pas ça, et vont, Allez, change le tout.
Ce qui c'est dommage. Yacine, merci c'est d'avoir été avec nous, Yacine.
Merci.
Bonne soirée,
gars,
mon gars.
Ne cache pas la télé.
Je vais vous demander un petit t-shirt, s'il vous plaît.
Ouais, c'est jouable, Jérôme.
Ah, merci.
Mais bien sûr, nouveau t-shirt.
Ah, merci.
Bah, merci à toi, Yacine.
Merci,
à bientôt.
Ciao. Que la télévision.
Salut, Yacine. Ciao. On a la télé aussi, RMC Sport News. Attention, les mecs. Allez dire, Ludo.
Non, je ne le reconnais plus. Lui qui a pour habitude d'être si ambitieux, c'est plutôt un coach qui est porté sur le risque, l'offensive. Et je l'ai pas connu comme coach à vocation défensive, quoi. Il est empêtré dans sa peur de perdre ce qu'il a. Mais t'as rien, t'es dixième du classement, tu vois. T'es accroché à un truc où. Mais qu'est-ce que tu vas perdre, toi ?
Je te pose une question, Ludo. Est-ce que c'est je l'ai connu en tant que joueur, il joue avec moi,
ouais.
Mais pas en tant que coach. En tant que coach là, ce qui se passe en ce moment par rapport à son image et tout, tu crois que ça le touche pas là ? Dégage Rudy Garcia, on te veut plus. Est-ce que tu penses que là, il est vraiment pas bien de point de ne pas avoir son recul, de pouvoir régler cette situation avec toute cette pression qu'il ressent à Marseille ?
Et c'est forcément, tu peux pas passer à côté de ça, tu es à Marseille.
Bah, y a des mecs qui sont...
à Marseille,
oui, mais...
tu peux pas vivre.
Mais est-ce qu'il est suffisamment, est-ce qu'il peut être blindé face à ça ? C'est ça que demande Ali. Ou est-ce que ça peut le toucher, tu penses ?
J'y ai pensé pendant un moment, jusqu'à la trêve. Je pense que il a réussi à contenir tout ça. Et c'est là... sûrement dit qu'avec le mercato et puis la trêve, ça allait, la machine allait se relancer, il allait pouvoir à activer des leviers. Et aujourd'hui, il a quasiment plus aucun levier, et il s'empêtre à faire des choses qui sont pas constructives et
qui sont pas cohérentes.
Et ouais, c'est ça. Et ouais, je trouve qu'il est dans ses choix, on sent qu'il est il est perdu. Il est perdu.
Tiens les gars, on va accueillir Benjamin, autre supporter de l'OM qui nous a appelé au 32. Salut Benjamin.
Bonsoir tout le monde, bonsoir la team RMC, bonsoir la team Comigno, je suis dégoûté.
Respire, résigné, je crois même. Respire. Toi, tu crois même plus à la première partie de tableau pour l'OM, c'est ça ?
Mais c'est tout ce qui se passe depuis l'intersaison de l'année dernière, c'est de l'amateurisme. Que ce soit les dirigeants, l'entraîneur, les joueurs, c'est de l'amateurisme. Aujourd'hui, avec le niveau qu'on a, on est incapable. Regardez les 10 premiers du championnat, on est incapable de les battre. Aucune équipe, que ce soit chez nous, au Vélodrome, avec le fond de jeu qu'il y a en ce moment. Mais là, tout ce qu'il a dit Yacine, tout ce que vous dites vous depuis le début là, je suis d'accord avec vous, mais ça fait depuis combien de temps ça dure, depuis l'été dernier. Déjà à Nîmes, on est incapable de gagner, on est incapable de produire du jeu, les dossiers des attaquants, les dossiers de tout, c'est de l'amateurisme tout ce qui se passe. Et là, aujourd'hui, de se dire qu'on va finir sur le podium parce qu'il y a à cause de la Ligue 1 que les concurrents directs n'arrivent pas à gagner. On est à 3 points, 6 points, mais on est incapable de gagner un match de volant. Les derniers matchs qu'on a gagnés, c'est contre Amiens et Caen. Ils jouent le maintien. Faut arrêter. C'est tout ce qui se passe là, tout ce que vous dites là depuis 5-10 minutes avec mon ami Yacine qui a été
oui,
très
c'est
long.
Un moment, hein.
C'est ça dure depuis l'année dernière, depuis l'été dernier, avec le dossier de l'attaquant que ça a traîné, que ça patine, ça s'entête. Et Rudy Garcia aujourd'hui, il paye les pots cassés, je suis désolé. C'est l'unique responsable.
Il paye les pots cassés puisqu'il est responsable. Benjamin.
Pardon ?
Tu dis Rudy Garcia, il paye les pots cassés ?
Ben oui,
mais c'est pas qu'il paye les pots cassés, c'est
des choix de recrutement.
Non, mais c'est lui.
Ne me dites pas.
Et c'est lui. Le recrutement, c'est lui aussi.
C'est lui maintenant, mais à la base, c'est tout le monde.
Non, mais ce que tu veux dire, Benjamin, c'est pas qu'il paye les pots cassés, c'est qu'il casse les pots d'ailleurs. C'est plutôt ça l'histoire. Non, mais c'est vrai, c'est ça l'image plutôt.
Tout le monde casse tout, mais fou. C'est là ce que j'entends depuis 5-10 minutes. On le voit depuis un an. Me dites pas qu'on tout le monde a mis les meilleurs éléments pour que l'OM réussisse une saison. C'est impossible ce que vous dites. D'ailleurs, d'avoir recommencé une saison avec Germain Mitroglou, d'avoir acheté Strootman pour remplacer par Jambo, c'est mon ami Jérôme, il nous rend fou avec ça. Il faut arrêter de dire que l'OM cette année va finir sur le podium, même s'il nous reste que 2 matchs, 3 matchs à rattraper pour recoller au podium. On est incapable de gagner un match.
Mais alors attends, Benjamin, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un point sur lequel t'es pas d'accord avec Yacine là, qui était là juste avant toi. C'est que Yacine disait, regardez l'effectif de l'OM. Quand vous regardez l'effectif, finalement, l'équipe est pas mal. T'es d'accord toi avec lui ou pas du coup? Parce que là, d'après ce que tu dis, non.
Je suis d'accord, mais. Elle est pas mal, mais pas pour finir sur le podium, je suis désolé, pas pour finir sur le podium, avec tout ce qui s'est passé. Parce que attendez, je parle depuis le début de la saison, moi. Je parle depuis le tout début de vendre Zambo Anguissa, de recommencer une saison avec Germain Mitroglou, de trouver une doublure ou voir un titulaire à ma vie, de recommencer avec Louis Gustavo derrière, que l'année dernière, ça allait, mais c'est parce que c'était un miracle. Payet, il a fait quoi, Payet? Il a fait signer les premiers mois avec Garcin quand il est arrivé. Et après, il a fait 6 mois, les 6 derniers mois avant la Coupe du Monde. Et après, ça a été fini. C'est pas assez fin, je veux dire, je sais plus quoi dire. On est curé, non, Marseille. On est curé de voir tout ça. On voit des Strasbourg qui viennent gagner à la maison, on met bordé Lille, Mitroglou. Il a pas joué depuis 3 matchs, il le fait.
Non mais Benjamin, il a cassé la télé là, ça y est. Mais quand Benjamin parle le podium, on n'a pas l'équipe pour le podium, mais qui est sur le podium? C'est Lille qui était censé être se respirer un peu cette année par rapport à la saison catastrophique la saison dernière.
Non mais Ali, moi là où je suis d'accord avec Benjamin, c'est lui il parle du podium. Mais attends, entre Marseille et le podium, on rappelle que Marseille est 10e ce soir. Oui. Alors oui, t'as Lille qui était pas attendu, t'as Lyon, mais t'as Saint-Étienne, t'as Strasbourg, t'as Montpellier, t'as Reims, t'as Nice.
Que je dis.
T'as Rennes. Voilà, c'est ça le problème, en fait.
Ben, c'est pour ça. Donc, t'as pas besoin d'avoir une équipe exceptionnelle en ce moment pour être deuxième et troisième.
Enfin, ce qui est drôle aussi, enfin.
Ah non, ouais, enfin, je sais pas.
C'est que le championnat, peut-être, ça fait quelques années où on a rarement vu le championnat aussi faible. C'est pas les plus belles années quand on regarde là les années précédentes. Cette année,
t'as quand même un révélateur qui est la Coupe d'Europe. Ouais. Bah, Rennes cette année, pour une fois, ils ont passé la phase de groupe. On va voir ce qu'ils font au prochain tour. Là on va rentrer dans le dur. Je suis d'accord avec toi.
Je te dis pas
que le niveau est bon, mais
tu as dit la Coupe d'Europe, Marseille, Monaco.
Ouais, là-dessus je suis d'accord.
Ils sont passés complètement.
Monaco ils sont 18e de Ligue 1.
Non mais les deux sont passés complètement en travers en Coupe d'Europe et c'est exactement la même chose en championnat.
Moi je veux bien à partir du moment où tu me dis
championnat.
S'ils étaient premiers en championnat et éliminés des coupes d'Europe d'entrée, là je te dirais il y a un problème. Il y a une certaine logique dans leurs résultats cette saison. Marseille ils se sont fait sortir très tôt et Monaco aussi, mais en championnat là ils sont à la rue aujourd'hui.
C'est pour ça que quand tu n'as pas dans un championnat, on le dit top 4, top 6, très très bon, ton championnat a des problèmes. Et là sur les 4 gros normalement, tu as PSG qui est là. Lyon qui essaie de tirer les ficelles pour rester et deux qui ont explosé, ça fait trop. La moitié sur le top 4, ça fait trop pour tirer le championnat vers le haut.
On continue d'analyser ce résultat, ce match, cette défaite de Marseille à Reims ce soir, 2-1 pour le Stade Reims. Supporters et moi d'ailleurs, on vous attend aussi au 32-16. Dingo met buteur à la 21e, Souk à la 68e, Senji qui a marqué pour l'OM dans les 10 dernières minutes. Un peu plus tôt, Angers a battu Dijon 1-0, Monaco a battu Toulouse 2-1 et Rennes s'est imposé 1-0 face à Amiens. Reims qui est 7e, Marseille 10e. À tout de suite avec Ludo Bragnac et Ali Benarbia.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie d'Ali Benarbia et de Ludovico Bragnac, sachez que Marseille vient de s'incliner 2-1 à Reims, affiche de la 23e journée de Ligue 1. Un peu plus tôt, Rennes a battu Amiens 1-0, Monaco a battu Toulouse 2-1 et Angers s'est imposé 1-0 face à Dijon au classement. On a Reims qui est 7e avec 34 points, Reims qui a 3 points d'avance sur Marseille. Marseille est 10e de Ligue 1 ce soir, ils ont 9 points de retard sur le podium en attendant le match de demain entre Lyon et le Paris Saint-Germain, puisque Lyon pourrait prendre carrément 12 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. On va accueillir Fabrice qui nous a appelé au 32-16 et qui est supporter de l'OM. Lui aussi est dépité, Fabrice. Salut Fabrice.
Bonsoir messieurs.
Salut Fabrice.
Bonsoir Fabrice. T'as pas cassé la télé toi non plus, ça va?
Non, on a un peu plus là. Je sais même plus quoi faire. Enfin, franchement, c'est horrible. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis avec mon pote Polo. On avait appelé Nico, je sais pas si tu te souviens, mon pote de Gouvelia. Tu te souviens de ça, des équipes?
Ton pote de?
C'est un Pologne?
Non, Gouvelia.
De Gouvelia?
Eh oui.
Oh, Sporting Club de Gouvelia, bien sûr que je connais.
Eh oui, grave. Ouais, tu sais quoi, on va tous les transférer là. Parce que moi, tu sais ce que j'ai vu ce soir? Tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu Romao, on aurait dit Iniesta.
Il était à toi il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Hein.
Non mais, enfin, je veux pas manquer de respect à Reims, mais Reims, c'est d'une faiblesse.
Mais tu trouves toi?
Moi, je suis pas d'accord avec toi.
Ah, je suis pas d'accord non plus, Fabrice.
Ludo, je suis désolé, mais quand moi, je pense que Rennes, c'est très très faible. Mais Marseille, c'est encore plus faible. C'est ça qui m'inquiète. C'est hallucinant. Et on en parle de la passoire là, qu'on a ou pas en défense ou pas là? Non, mais Mandanda, on en parle un petit peu ou pas?
Ouais, Mandanda, il t'en sauve au moins deux ce soir, Fabrice. Pour le coup, c'est pas le match pour l'accabler, Mandanda aujourd'hui.
Ah non, c'est vrai, 2 tirs cadrés.
Ouais, mais si tu prends la stade brute, enfin.
Non, mais il a pas eu 2 tirs, il aurait pu prendre des buts. Hein. Bon, et puis, attends, le premier but.
Ouais, il en prend 1-2, il y a 4 tirs cadrés, ouais.
Le premier, il est dévié par Gustavo, donc il pourrait plus faire du tout.
Peut-être le deuxième, à la limite, le deuxième, mais c'est vrai que moi.
Il a beau pourtant.
Non, mais ça fait, c'est pas sur ce soir.
C'est pas sur ce soir.
Ça fait un moment que ça traîne, cette histoire.
Parce que
c'est pas que lui, hein. Quand je vois Rolando, il me fait de la peine. Vous avez vu, là, sa tête du dos, là? C'est pas mal aussi, la tête en arrière aussi. C'est bien.
Non, mais si tu les prends tous un par un, t'en as pour un bon bout de temps, là, je crois.
C'est clair. Mais j'ai envie un en particulier, c'est Garcia, mais qui dégage, quoi. On n'en peut plus de Garcia, quoi. Mais franchement, moi, je comprends pas, là. on va attendre combien de temps encore je sais pas, 20 matchs sans, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, là?
Ouais, il restera pas autant de matchs que ça, hein, je pense. Hein.
Il est lié à Jacques-Henri Hérault, hein, donc pour moi, c'est la doublette. Hein.
Attends.
Toi, tu penses que Hérault, il va couler avec lui?
Ben, ça devrait. C'est lui qui l'a choisi.
Oh, mais ça veut rien dire. Ça, c'est le rôle d'un président de choisir un entraîneur.
Non,
c'est aussi le rôle d'un président de choisir Paris quand ça va pas bien.
C'est un président qui fait connerie sur connerie. Donc, à un moment donné, pour l'OM, t'as besoin d'un quelqu'un d'un peu plus compétent. Quand tu, prolonges ton entraîneur alors que les résultats sont pas au beau fixe et que tu lui donnes, 2 ans de plus alors que t'es au début de la saison, quand tu es pas capable d'avoir anticipé la saison dernière où certes tu emmènes l'équipe, tu fais un truc formidable, tu emmènes l'équipe, ta charnière est vieillissante, donc Rolando, Rami, à ma vie était pas satisfaisant, donc tu n'as rien anticipé, tu n'as rien compensé, et là encore sur les zones de rattrapage du mercato d'hiver, il se passe rien. Il y a rien qui est fait. Et Rudy est aussi responsable là-dessus parce qu'il a eu en main le recrutement d'après nos sources. Et Zubizarreta, qui était là, lui quand même, il aurait pu peut-être avoir ses relations espagnoles ou ailleurs, amener des joueurs en prêt du Barça ou ailleurs d'Espagne. Mais il y a rien qui est fait. Donc la triplette, elle fonctionne pas.
Non, mais déjà,
ça fonctionne pas.
Ce que je comprends pas, c'est que le poste d'attaquant était quelque chose d'important. Ils arrivaient pas à le faire. Pourquoi cet été, tu ne fais pas l'effort des 2, des 3 ou des 4 millions d'euros puisque tu vas les faire un peu plus tard et que tu as perdu 6 mois?
Parce qu'en fait, tu veux que je te dise, il y a encore un élément de réponse quand ils en ont un petit peu parlé. Déjà, tu as l'aspect comptable, c'est-à-dire que les 6 mois où Balotelli n'était pas là, bah, tu n'as pas payé son salaire, tu vois, il y a ça. Et deuxième aspect, c'est que le fait qu'il ait un salaire qui est aussi important, souviens-toi l'arrivée de Strootman, le bordel que ça a foutu parce que lui, il avait le plus gros salaire du vestiaire, c'était lui devenu maintenant lui qui était le taulier. Imagine Balotelli qui arrive et qui en plus renchérit derrière. Les gars, vous avez connu ça mieux que moi, mais l'importance du statut d'un joueur, l'importance du statut du joueur via le salaire, il est important. Ça peut aussi te pourrir un vestiaire.
Mais sur le coup, ça me fait rigoler, hein, parce que qu'est-ce que t'as? Ceux qui ouvrent leur bouche par rapport au salaire, ça va être Payet et Thauvin, t'as compris avec moi?
Bon, ils peut-être d'autres, hein, t'en as peut-être certains qui ont des velléités.
Ceux qui sont vraiment au-dessus et proches, on va dire, d'équipe de France, où les grosses valeurs, c'est...
Bah, je sais pas, moi, Gustavo, il va peut-être dire, attendez, moi en plus, vous me demandez de jouer en défense pour dépanner, je le fais.
À ce côté-là, reste au milieu. Mais ça va être surtout quoi, les deux? C'est surtout Payet et Thauvin. Au salaire où ils sont, Payet, il est super content de revenir à Marseille. Et quant à Thauvin, s'il veut un plus gros salaire, mais il a qu'à se barrer et aller ailleurs. Donc je vois pas
Je suis complètement d'accord avec toi. Après, à un moment donné, c'est un respect de l'institution. Si Thauvin, il est pas content, ben, qu'il dégage. Et Payet, il n'y a pas encore marché chinois, là. Parce que vous allez me dire, c'est trop cher de virer Garcia, mais on a qu'à vendre Payet à un club chinois.
Ah, mais tu pourras plus le vendre, Payet. Payet, tu vas le garder jusqu'au bout avec son salaire, moi je l'annonce.
Ouais, non, mais il y a autre chose aussi, ça me rend fou, ça. Tu commences ce match, tu contre Reims, t'es dans tes 30 mètres, quoi. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de pressing, il n'y a rien. On est Marseille, quoi. On se fait marcher.
Et tu as que des passes en retrait pendant tout. Il a fallu attendre 2-0 et la fin pour commencer à jouer de l'avant. Et on se rend compte, et c'est pas compliqué le football, que quand tu joues de l'avant, ben, l'adversaire automatiquement recule. Et s'il recule et que t'es dans ses 30 derniers mètres, ben, c'est beaucoup plus facile de tenter des choses et mettre la pression sur l'adversaire qui, lui, panique. C'est pas, alors, une équipe qui gagne 2-0, panique, prend un but, et alors là, ça devient la débandade pour l'adversaire. Pourquoi ne pas le faire avant?
Ouais, on peut plus, moi, je sais plus. Non, mais franchement, je sais plus quoi faire. J'en ai marre aussi. J'ai pas de télé, j'ai un vidéoprojecteur, mais j'aurais bien pété aussi, quoi. Mais genre, non mais franchement, et Lopez, là. Lopez aussi, là. Les stats de passes qu'il fait, vous avez vu? Des passes en retrait?
Il a joué comme l'équipe dans les 10 dernières minutes de l'avant, et là, on a retrouvé Lopez. Mais c'est pas aux petits jeunes de prendre les choses à main. C'est pas à lui, c'est aux autres. Et tout le monde se cachait. Personne ne voulait la balle.
Non mais ça, moi j'ai beaucoup de peine, franchement, j'en ai vraiment marre. Je sais pas ce que, il va falloir que je trouve une nouvelle équipe, quoi.
T'habites où, toi, Fabrice?
Moi j'habite à Avignon, non mais moi c'est...
L'Atlético de Marseille.
Attends, qui a tapé, je crois, la réserve de l'OM d'ailleurs, c'est Salim Mangali qui m'a dit ça, je crois, cet après-midi. Je crois qu'ils ont gagné 4-2, non mais sans déconner.
T'as Mamad saoulé là-bas, t'inquiète, tu vas rigoler.
Ancien Marseille consola.
Non mais je sais plus, c'est pas possible.
Écoute, on essaie de trouver des solutions, nous, Fabrice, après.
Si même les supporters n'ont pas de solution.
mettez, vous voulez pas être les jokers là, Ali et Ludo là,
non. Ah, je te dis un truc, si, en ce moment pour jouer à Marseille, ah non, j'en veux pas.
Bah, attends,
je vais passer mon temps à courir.
Ludo, quel âge tu as là?
34.
Vous avez vu, en Angleterre, quand même, Peter Crouch, 38 ans, il est à la retraite, au bout de 6 mois, il reprend, il fait, allez, tiens, vas-y, je re-signe à Burnley en PL. Il a rejoué aujourd'hui, d'ailleurs.
J'ai joué contre lui, Peter Crouch.
T'as joué contre Peter Crouch?
Ouais.
Ça, c'est dire la longévité du mec, quoi.
Ah, là, t'as raison, la longévité, surtout à côté de moi. Il était très long.
Il était où à l'époque quand t'as joué contre lui? Il en a fait des clubs en Angleterre.
Portsmouth?
Ouais,
il est à Portsmouth, ouais.
Fabrice, merci d'avoir été avec nous.
Merci, les gars.
Bonne soirée, courage,
Fabrice. Courage,
courage, la vie, va. Allez.
Au revoir.
Salut Fabrice, ciao, ciao. Tiens les gars, Timothée Mémon est avec nous, lui qui nous a fait vivre ce Reims-Marseille, on le rappelle, victoire de Reims 2-1 face à l'OM. Et Timothée a suivi la conférence de presse de Rudy Garcia notamment. Timothée, c'était comment? Il était quoi? Il était en mode vénère, l'entraîneur de l'OM ou pas?
Pas du tout en mode vénère, mais une conférence de presse relativement lunaire pour ceux qui ont vu cette rencontre. Pour la bonne et simple raison qu'il est arrivé, qu'il a livré une analyse, son analyse, avant quasiment de repartir. Il a fallu d'abord que les journalistes le retiennent en lui posant une question, puis une autre, puis une autre. Bref, il avait vraiment envie de s'en aller. Et son analyse, je vous la livre. C'est la faute à pas de chance. En clair, c'est ce que nous a dit Rudy Garcia au terme d'une rencontre où pourtant Marseille n'a vraiment pas bien joué au football. Il a souligné le bon premier quart d'heure de l'Olympique de Marseille, ce sur quoi on peut lui accorder raison. Le bon dernier quart d'heure de l'Olympique de Marseille. Mais il estime que son équipe a pris 2 buts sur 2 frappes contrées. C'est une réalité. Mais il a ajouté que c'était sur les 2 seules occasions rémoises de cette rencontre. Or, ça n'est absolument pas le cas. Les Rémois se sont procurés un certain nombre d'occasions. Marseille n'a rien montré. Il a ajouté que Marseille n'avait pas eu de chance parce que Marseille aurait dû peut-être être à 11 contre 10 à la 60e minute de jeu sur un tacle certes mal maîtrisé de Dingomé sur lequel il a pris un carton jaune, mais il n'y avait pas vraiment nécessité de sortir le carton rouge. Bref, vraiment très peu de remises en question de la part de Rudy Garcia lors de cette conférence de presse. Peu de remises en question de son équipe et de lui-même encore moins.
Merci beaucoup Timothée pour ces informations.
Merci Timothée.
Il est dans le déni total encore là, Garcia, non?
C'est comme les menteurs chroniques, tu sais, à force de mentir, ils pensent que ça devient la réalité.
Ils sont convaincus de ce qu'ils disent.
Voilà, et ben là c'est pareil, sauf là il s'est créé un environnement où...
Mais tu penses qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il dit?
Non,
ou alors c'est une stratégie?
Non, c'est là je peux pas penser une seconde, j'ai été son joueur.
Mais il le faisait ça avec vous ou pas, de temps en temps, en disant genre il arrivait devant la presse et derrière il vous découpait? Il faisait l'inverse de ce qu'il disait à la presse.
Tous les coachs le font ça, mais il a toujours essayé de nous protéger. Mais là, si tu veux, à un moment donné, tu sais plus quoi dire. Un coup, tu cries fort, ça passe plus, enfin c'est pas crédible. Un coup, tu dis que finalement c'est la faute à pas de chance. Pareil, ça fait trop longtemps que ça dure. Donc quoi que tu dises, de toute façon, t'es en difficulté. Mais il est parti dans une posture où il essaye de s'en sortir, mais de toute façon, il pourrait dire n'importe quoi, il y a plus rien qui passe.
Alors, est-ce qu'il est dans une position où maintenant les entraîneurs, on va se protéger? Parce que si on dit la vérité, et style dire quoi, ben on n'a pas bien joué, j'ai pas de solution, je ne sais pas quoi faire, c'est montrer de la faiblesse. Ou à ce compte-là, avec ton carnet, tu dis oh là là, ça va pas. Donc qu'est-ce que je vais trouver à répondre à la presse? Alors on va chercher ce qui me concerne pas,
moment...
ce qui concerne l'extérieur. Pour un petit peu.
Non, mais il y a un moment, t'as aussi le droit de dire.
Le problème.
Mais à un moment, t'as aussi le droit de dire quand t'as une victoire en 12 matchs. Bon, bah, c'est vrai, on n'a pas été bon, ouais, c'est vrai, c'est non. Pour moi, je me suis planté, j'ai pas fait les bons choix.
Ça se retourne.
Tu as raison. Je pense que les gens attendent aussi qu'ils prennent un peu plus de responsabilité dans les défaites.
Ouais. Et maintenant, les entraîneurs, ils ont compris que quand tu faisais ça, c'était pas bon. Parce que le président lui-même va te dire, vous avez dit que vous n'avez plus eu aucune solution. Donc, je vous sors. Alors du coup, les coachs, qu'est-ce qu'ils font?
En fait, ils font de la com pour l'interne.
Pour tout. Ouais. Pour l'extérieur, pour la pub, pour l'étranger, s'ils cherchent un club.
Alors,
pour le président, pour pas lui donner les moyens de dire à la presse, au président, aux supporters, vous avez dit ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il contourne et il détourne.
Ouais, mais au final, c'est de l'autre côté.
Tout le monde est au courant.
À force de taper sur ton groupe, à force de dire c'est la faute à pas de chance, de taper sur les joueurs, à un moment donné, ils te
suivent. On l'a vu aujourd'hui.
Alors les gars, si Marseille est perdu, c'est parce que Reims a gagné. Et ouais, parce qu'on a encore parlé du stade de Reims qui est 7e, qui a 3 points d'avance sur Marseille, qui est pas loin des places européennes. On a Julien, supporter rémois justement, qui est avec nous, qui nous a appelé au 32-16. Salut Julien.
Bonsoir à tous, bonsoir Nico, Ali, Ludo.
Salut Julien.
Et dis-moi Julien, alors on va pas dire que c'est un accident, un bel accident non. Même pour Reims, parce que face au gros à domicile, ils sont là Reims cette saison.
Mais tout à fait. En fait, moi, si vous voulez, je vous appelle parce qu'en fait, je suis un petit peu dégoûté à chaque fois. Je vous écoute tous les soirs de match et j'ai souvent l'impression qu'on dit que Reims a eu de la chance, Reims a été optimiste, Reims est passé ricrac, etc.
Bah, c'est juste ce soir qu'on parlait de Marseille. On n'a pas parlé encore de Reims, mais en général, de cette équipe de Reims, on n'en dit que du bien. Et encore ce soir, il n'y avait pas Chavaria. Parce que si en plus il y aurait Chavaria ce soir, je pense que Marseille aurait encore plus de problèmes.
Ouais, faut pas oublier qu'on était quand même on a été champion de Ligue de l'année dernière, on a une défense qui est juste extraordinairement solide. On a des mecs comme Romao qui récupère des ballons
Abdelhamid,
voilà, juste derrière, il saute plus haut que tout le monde à chaque duel. Je pense qu'on a un schéma qui est similaire entre guillemets, qui est assez critiqué, mais à l'équipe de France, c'est-à-dire qu'on est solide derrière. On joue défensif et quand les mecs sont aspirés, on part devant et c'est comme ça qu'on score. Donc moi je pense vraiment que le Stade cette année c'est pas une équipe de fou, mais c'est une équipe qui peut vraiment concurrencer en fait à peu près tous les clubs sauf le Paris Saint-Germain parce que bien évidemment ils sont au-dessus du lot. Mais voilà, Reims pour moi a les qualités suffisantes pour jouer au moins le top 10 du championnat cette année quoi.
Dis-moi le côté gauche habituellement il y a comment il s'appelle arrière gauche là? Touré, non?
Camara?
Camara?
Non, ouais, c'est Camara ou Camara. Ouais.
C'est Camara. Et habituellement, qui joue devant lui? Il a pas joué ce soir?
Des fois, on a Ojo qui passe au remplacement.
Non.
C'est pas Cafaro?
Je sais plus.
Non,
Cafaro, il joue.
Non, comment il s'appelle? C'est,
J'ai un trou de mémoire, écoute, je t'avoue que le stress de la radio.
C'est le côté gauche qui est énorme habituellement.
Mais oui, c'est dommage. Très bon. Mais même Oudin sur la droite, regarde Oudin, il a marqué combien de fois ces derniers matchs, au moins 3 fois.
Il est vraiment intéressant. Donc, il est tout jeune, hein, il a 22 piges. Oudin.
Ouais. Moi j'aime bien, j'en parle avec Ludo. Bonne patte gauche, il lève la tête, il fait pas n'importe quoi. Et de vouloir aller trop vite ou d'être trop lent, c'est pas bon. Dans ces 30 derniers mètres, le plus important, c'est le tempo et le rythme de la passe, de ralentir ou d'accélérer. Et ce qui est assez bizarre pour ce joueur, c'est que pour un jeune, il a cette qualité-là, ça fait plaisir.
Il a de bonnes qualités. L'année dernière, il a été un peu critiqué, il était encore trop inconstant. Mais cette année, je pense que voilà, on a une paire de joueurs qui ont monté de palier. Simplement, c'est des gars qui sont là de maintenant depuis quelques années, qui ont pris de l'assurance, ils jouent ensemble, ils jouent bien ensemble, ils sont surtout soudés. Quand tu regardes aujourd'hui, maintenant, un Marseillais qui avait un ballon, t'avais 3 rouges dessus. Donc, il y a un moment donné, les mecs jouent pas pour eux, ils jouent pour le club. Et ça, franchement, c'est la qualité qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe est solide.
Julien, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous de m'avoir
invité. Merci Julien.
Bonne soirée, Julien.
Allez, Reims.
Bon courage à vous. Salut, bon courage.
Tiens, on a mis supporter de l'OM sur ton synthé, t'es supporter de Reims, bien sûr. Et ne raccroche pas, on t'offre un DVD. C'est quoi, le cas Benzema, c'est ça, Jérôme? C'est ça, bah voilà, c'est pour toi, c'est cadeau, Julien.
Je vais bien rigoler à la maison, alors.
Bonne soirée, Julien, à bientôt.
Allez, bonne soirée,
Julien. Salut, ciao. Julien, supporter de Monaco, supporter du TFC, on vous attend au 32-16. Monaco a gagné ce soir, 2-1 face à Toulouse. Justement, Monaco qui est 18e avec ce résultat. On vous rappelle que Reims s'est imposé 2-1 face à Marseille. On vous attend au 32-16 avec Ali Benarbia et Ludo Braillac. À tout de suite.
RMC Football Show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia, avec Ludovic Obraniak, les affiches de ce samedi, affiches de la 23e journée de Ligue 1. Angers a battu Dijon 1-0, Rennes a battu Amiens 1-0, on vient d'en parler, Reims s'est imposé 2-1 face à Marseille, et puis Monaco a battu Toulouse 2-1, les buteurs Golovin à la 15e, égalisation de Julien 5 minutes plus tard, et c'est Fabregas un peu après l'heure de jeu qui a donné la victoire à l'AS Monaco, Monaco qui est 18e avec ce résultat. Alors ils sont égalité d'ailleurs avec Caen et Dijon, plutôt avec Caen et avec Amiens qui est juste derrière Amiens et Caen qui est juste devant, et ils sont à 2 points de Dijon qui est 16e et Toulouse qui est 14e avec 26 points.
Non, on peut Monaco qui victoire ô combien importante pour sortir de un peu du marasme du moment, notamment pour Jardim, c'était important pour lui de d'enquiller tout de suite sur une victoire, mais que ça a été dur. Après Monaco, moi j'ai aucun souci, les recrues offensivement vont faire le job. Jelson Martins, c'est très bon. Golovin a été excellent, notamment sur la première mi-temps. Falcao tiendra son rang, Ronny Lopez pareil. Moi là où je suis inquiet toujours, c'est l'aspect défensif. l'aspect défensif. Alors le milieu, tu vas récupérer vainqueur parce que Jamerson, qu'il soit placé en 6 ou défenseur central,
récupérer Naldo,
c'est la même. Mais c'est vrai que défensivement, t'as toujours peur, quoi.
Non, il faudrait déjà qu'ils aient leur équipe et qu'ils jouent au moins à 11 pendant le match, parce qu'avec un Naldo, comme on dit, vainqueur, Fabregas au milieu, Falcao, Martins, Rony Lopez qui est revenu, alors ça de suite, Golovin qui du coup, c'est toujours souvent comme ça, ben se sent beaucoup mieux parce qu'il a moins de pression sur lui parce qu'il y avait personne autour de lui. Maintenant il y a tellement du monde, ben qu'il se sent, il se lâche un petit peu. Balotouré qui va beaucoup apporter sur le côté gauche alors qu'il y avait pratiquement plus personne. Ben, automatiquement tu vas retrouver une bonne équipe, mais comme tu l'as dit, il faut que Subasic retrouve un petit peu sa forme. Il te faut cette colonne vertébrale sur. Il faut que Naldo s'impose et rassure tout le monde pour une bonne fois pour toutes. Il faut que Vainqueur nettoie un petit peu tout devant la défense. Fabregas reprend les choses à main et que Falcao reprenne à marquer des buts comme il avait l'habitude de faire, où il marquait un but sur deux occasions, ce qui n'est pas le cas en ce moment.
Alors c'est quand même un petit événement, hein, cette victoire de Monaco. Ils n'avaient pas encore gagné en 2019, ouais, en Ligue 1 notamment. Ils avaient gagné en Coupe de France, alors c'était à Perpignan, ce fameux match de Coupe de France. Ah, ils avaient pu gagner depuis le 19 décembre. Comment ?
Ils avaient gagné à domicile, mais pas un championnat. Voilà. 1-0 contre l'Orient.
Voilà. C'est vrai que ça commence à dater, hein, quand même. Ouais, ça faisait un moment, hein, que Monaco n'était pas là. Tiens, on va accueillir Antoine, supporter de Monaco, qui nous a appelé au 32-16. Salut Antoine.
Salut tout le monde.
Salut Antoine. Salut Antoine.
Alors, est-ce que t'es un peu rassuré, Antoine, ce soir? Parce que c'est vrai que ça n'a pas été très simple, hein. Il y a eu un peu de réussite aussi pour Monaco. Ils ont souffert dans ce match, hein.
Franchement, un mot déjà, c'est enfin.
Ouais.
J'ai revu des joueurs qui se réveillaient. Falcao, franchement, et je revois Falcao. Et ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Et enfin, Golovin commence peut-être à se réveiller. Enfin, Lopez, il se souvient comment on joue sur un côté. Enfin voilà, il y a des trucs qui vraiment étaient bien. Et je me dis que peut-être qu'on a le début de quelque chose. Après, il y a quand même des éléments qui sont pas encore là. Balotouré, ouais, il a fait un match correct, mais moi la défense, ça continue à me faire peur. Et moi, je pense que Subasic, depuis le début de la saison, je sens qu'il est pas là, quoi. Ça n'a pas été catastrophique ce soir, mais il y a des moments où
l'autre c'est pas mieux, donc.
Non, ouais, c'est sûr que ouais, voilà. Le problème de Monaco, c'est pas Subasic, il est pas là, il y a personne derrière.
On a dit que Subasic c'était un autre problème extrasportif qui est en train de se régler, ouais. Surtout avec le retour de Jardine. Qui a dû dire à Subasic et qui a dû dire à Vassiliev, parce qu'il est très proche, régler le problème de Subasic, c'est très important, comme ça on va de l'avant et ça a l'air en train de se régler là.
Ah mais c'est un cadre, enfin depuis plusieurs années maintenant, il fait partie vraiment des cadres de l'équipe et effectivement le fait qu'il ait des problèmes à côté et qui fait que du coup il est pas dedans, ça joue sur l'équipe, hein, depuis le début de la saison, ça a joué. Mais moi j'en reviens quand même à quelque chose que je l'avais dit en début de saison et ça s'est répété au début, c'est que Subasic, c'est Jardim, il n'a pas vraiment été écouté sur le recrutement, enfin sur les besoins qu'il avait en début de saison. Ils l'ont viré, et pour moi c'était la bêtise, pour pas dire autre chose, de l'AS Monaco de cette saison. Il est de retour et franchement ça fait du bien. Je pense qu'il y a un vrai effet Jardim dans le fait qu'on se relance avec tous les joueurs qu'il a pu avoir, parce que voilà, ils ont quand même recruté des joueurs qui sont plus des cadres. Que les recrutements de cet été qui étaient des recrutements prometteurs mais très jeunes. Voilà, là il y a enfin des cadres qui remplacent ceux qui sont partis et qui permettent enfin à Monaco d'avoir une équipe un peu plus structurée.
Mais tu vois Antoine, tout à l'heure on avait un supporter de l'OM qui nous disait, moi quand je vois l'effectif de l'OM, quand je vois l'équipe de départ, je trouve que c'est pas mal. Et franchement, quand tu vois le 11 de départ de Monaco ce soir, t'as Daniel Subasic qui est quand même international croate, t'as Sidibé, t'as Glik, Badiachil, Balotouré. T'as Fabregas, Jamerson, Golovin. Alors même si Jamerson il est pas bon depuis le début de saison, bah il y a deux ans encore c'était l'un des cadres de cette équipe. T'as Gelson
sur le banc,
Falcao et Lopez devant.
Nkoudou, Adrien Silva sur le banc.
Adrien, ouais. On peut dire Adrien, il est français.
Ouais, Adrien, ouais.
Les Français. Rajoute Silva.
Non, mais l'équipe elle est belle.
Adrien Perruchet,
elle a toujours été belle. Même en début d'année, sans les recrues cet hiver, l'équipe est sur le papier, c'était une belle équipe avec des jeunes, avec des cadres. Enfin, il y a pas de souci, mais. Après l'équipe il y a deux ans ou de l'année dernière, il y avait deux trois noms de cadres qui sont partis sur les deux dernières années, qui ont fait que ça a peut-être un peu changé l'équipe et que ces cadres ils ont été remplacés par de la jeunesse.
Non mais ce qui est assez bizarre, c'est au moment où tu retrouves tous tes blessés. En plus, tu as 5-6 recrues qui arrivent, donc ça fait bouchon. Ouais. Alors qu'avant, tu n'avais rien du tout. D'un coup, tu retrouves avec trop de joueurs. Et en plus, tu n'as plus les autres compétitions, c'est-à-dire ni la Coupe de la Ligue, ni la Coupe de France, ni la Coupe d'Europe. Donc là, tu te retrouves avec tout l'effectif et qui s'est rajouté des joueurs importants. Et qu'avec le championnat. Donc je peux te dire que l'entraînement, ça doit être des matchs.
Et autre donnée qui est importante aussi, c'est le calendrier à venir hein, pour Monaco. Hein. Prochain match sera à Montpellier. Ensuite, ils ont deux matchs à domicile, c'est Nantes et Lyon. Et ils iront à Angers. Mais c'est vrai que là, il y a des matchs qui vont être importants aussi pour
Monaco. Ah bah là, de toute façon, c'est clair. Que là, tu recolles avec Amiens et Caen. Mais il faut encore aller chercher Dijon qui est deux points devant toi. Il faut encore aller chercher au-dessus.
Pourquoi chercher Dijon?
Mais il faut aller chercher.
C'est se retrouver 17e.
Hein?
C'est se retrouver 17e avant tout.
Oui, mais il faut aller chercher plus haut maintenant. Et
là, Dijon, ils sont 16e, Ludo. Ouais. Ouais. Bah, mais 17e.
Non, c'est 18e, le barragiste.
C'est 18e, Ludo.
Ils sont combien,
là, t'es 18, là.
T'es 18.
Égalité.
Oui, mais ce soit, Dijon est deux points
oui, dessus. Mais t'as quand entre les deux?
Ah, voilà, mais il va falloir aller les chercher à un moment ou un autre. Monaco. J'ambitionne pour Monaco.
De rester 17e.
Hein. Si tu peux pas
il faut qu'il termine 17e.
Tu peux pas aller chercher une équipe qui est deux points au-dessus de toi?
C'est pas ça qui va changer, Ludo. C'est d'abord
ça te fait quelques millions en plus.
Ça va changer. Si tu mets une équipe de plus derrière toi, ça change la donne quand même.
Non, mais même si t'arrives 10e, c'est encore mieux. Mais pour l'instant, il faut qu'ils se retrouvent dans cette 17e place et qu'ils aient les résultats entre leurs mains que de se trouver à la traîne à la 19e et que attendre que les autres perdent parce que le problème.
Non, mais je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je suis pas d'accord de végéter là, truc en disant on est 17e.
Tu peux pas végéter, mais pour l'instant.
Bah, c'est pour ça que je te dis maintenant, il faut ambitionner de remonter tout doucement et d'aller chercher petit à petit.
Chaque match, mais avant tout. Je l'ai dit depuis l'instant, Monaco, à vouloir gagner les matchs, tu les perds. Prends des points quand tu ne peux pas les gagner. C'est ce qui te permet toujours d'avoir la tête...
Messieurs, en remerciant Antoine, supporter de l'ASM qui nous a appelé au 32-16, victoire de Monaco, donc 2-1 ce soir. Fred Hermel est avec nous parce que ça jouait également en Espagne ce soir. Salut Fredo.
Hola Ticos.
Salut Fredo.
Alors on donne tout d'abord un petit résultat qui est important alors pour les deux équipes d'ailleurs. Le Celta a battu Séville 1-0.
Ah, je pensais à toi.
Ah, il est là Miguel Cardoso. Ça y est, il est lancé là.
Je me disais, mais c'était une victoire avec le public, l'union avec le public, les mecs qui se sont défoncés. Alors, je pensais, tu sais, parce qu'il y a quand même des gens qui aimeraient un jour qu'on arrive à une ligue fermée. Mais le bonheur que peut être de gagner un match pour essayer de pas descendre en deuxième division, mais ça vaut.
De toute façon, Vigo, tu sais très bien que c'est le Portugal, hein, c'est pas l'Espagne, hein, donc.
C'est vrai que le Galicien est quand même très très proche du portugais.
Tu sais que le Celta avait demandé il y a quelques années à intégrer, enfin il y avait pas mal d'années maintenant, à intégrer le championnat portugais. Ouais. Et les Portugais avaient dit mais vous êtes malade ou quoi, on se partage le gâteau à trois déjà donc.
Et puis il y a toujours une vieille idée d'une ligue ibérique hein, quand même. Hein.
Qui a été relancée figure-toi. Elle a été relancée l'été dernier avec des petits clubs.
Oui. Ouais.
Alors Monfredo, parlons du match quand même qui nous intéresse ce soir, Barça-Valence.
Bien sûr.
Alors on va y revenir mais Barça-Valence 2-2 entre les deux équipes, le Barça qui était mené 2-0 et la blessure de Messi. Alors on l'a vu, c'était à 20 minutes de la fin, il avait mal à la cuisse mais il va comment alors l'Argentin?
Alors, est-ce qu'il a pris un coup? Parce que comme on a deux anciens footeux là, j'ai envie de connaître leur avis. Il a pris un coup à l'intérieur de la cuisse droite, pas très loin de l'adducteur. Et donc, il s'est fait quand même soigner pendant plusieurs minutes, la bombe magique, etc. Mmh. Et après, il a pu jouer, quoi. C'est-à-dire qu'il est resté un quart d'heure sur le terrain. Messi. Lionel Messi, c'est un petit
un
gars qui débute.
À l'intérieur de la cuisse.
Ben, tu sais, c'est pas loin de l'adducteur droit, quoi, tu sais.
Ouais.
Et en fait, il a pris un coup. Et après, on sentait qu'il était pas à l'aise et il a quasiment rien tenté. Donc, les médecins ont fait un petit examen sommaire.
T'es sûr que c'est qu'un coup?
Parce que c'est bizarre.
Parce que là, dans cette zone-là,
c'est une contracture.
Ah, voilà.
Liée à ce coup.
D'accord.
Ah. La question que je vous pose, les amis, parce qu'elle est quand même importante, c'est qu'il y a un match essentiel, demi-finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid à Barcelone au Camp Nou mercredi soir. On est quand même samedi soir. Est-ce que si Messi force pour jouer contre le Real, est-ce qu'il pourrait avoir un risque de déchirure musculaire après la contracture et pas être là contre Lyon?
Ah bah bien sûr, si t'as une, après ça dépend, ça dépend de la tension. Alors une contracture, je crois que c'est, ils appellent ça lésion maintenant, level 1 ou niveau 1.
Là c'est vraiment contracture, c'est un peu dur quoi.
Ouais d'accord, c'est même pas,
on rappelle que c'est le 19 février le match hein, face à la.
Mais
le match
à si t'as une contracture et que tu forces dessus, oui ça peut déchirer.
Mais en général Fred, c'est pas trop dû à un coup, une contracture.
Bah, c'est pour
surtout côté intérieur. C'est pour ça que je me pose. C'est assez étrange.
Alors, on a vu les images. On a vu les images. Il a pris un coup de genou. Vraiment à l'intérieur, tu sais, dans un choc.
Ouais.
On a revu les images et on a vu que ça venait de là. Mais est-ce que voilà.
Si c'est qu'un coup, en glaçant bien, avec du repos bien glacé, je pense que
ça peut être bon.
Ça peut passer. Mais oui, même, pour mercredi, on est quoi aujourd'hui? On est samedi.
On est samedi soir.
Dimanche, ouais, pour mercredi, ça peut être bon.
Même
ça,
une contracture en trois jours, ça peut disparaître.
Contracture, ça peut disparaître. Mais à l'intérieur, c'est plus. Alors que tu m'aurais dit à l'extérieur, un coup à l'extérieur peut traîner beaucoup plus longtemps qu'à l'intérieur.
Un bocadillo ici, c'est-à-dire une
béquille.
Ce qui est rassurant, c'est que c'est sa jambe droite. Si ça avait été sur la jambe gauche, pour tout ce qui est
n'oublie pas que c'est la jambe mouvement. D'appui qui est plus
oui, mais c'est plus embêtant quand t'as la jambe de frappe. Là, t'as le mouvement de balancier, la passe. Si t'as, c'est plus gênant que ça soit sur le
sur la jambe de frappe.
Alors, ce qui est dingue, c'est que dès que Messi s'est fait soigner, mais le Camp Nou, il y avait 80 000 personnes, tout le monde s'est tu. C'est-à-dire que il y a plus tout le monde était ouf qu'on touche pas Messi quoi, parce que le calendrier qui arrive est assez énorme pour le Barça.
Et puis c'est normal dans le sens où quand tu revois encore les actions, il change encore quand il veut le destin d'un match.
Mais le Barça était comment d'ailleurs, Fredo, parce qu'il y a une semaine, enfin moins d'une semaine, tu nous disais que c'était inquiétant pour Lyon. Voilà, sans bien jouer. Et là c'était comment alors face à Valence?
Ce soir, ils seraient menés 2-0. C'est qu'il y a quelques largesses derrière. Il y a quand même beaucoup, enfin quelques occasions en contre de Valence. Ils reviennent grâce à un penalty, puis après, bon, finalement, ça fait 2-2. Enfin, ils perdent quand même 2 points à domicile. Donc, voilà, l'autre jour, c'était comme assez symptomatique de dire, bon, ce Barça, il a gagné sans bien jouer. Ce soir, Valence, c'est une équipe qui va mieux. Bon, enfin, c'est quand même pas un foudre de guerre, quoi. Donc, voilà, on va observer ce qui va se passer dans les prochaines semaines, ce qui va se passer contre le Real au Camp Nou. Mais s'il ne gagnait pas contre le Real, tout ça, c'est étrange. Alors après, en défense, il y avait un petit turnover, puisque l'Anglais était sur le banc, puisque Jordi Alba était sur le banc. Il a été obligé de le faire entrer en deuxième période, justement parce que le Barça était mené. Bon, on sent quand même que il n'y a pas une sérénité absolue du côté du Barça, même si je continue à penser que le Barça est bien entendu 100% favori face à Lyon. Mais on va voir l'état de Messi, parce que moi, ce qui me fait peur pour lui, c'est de absolument vouloir jouer contre le Real et de se faire mal beaucoup plus gravement.
Très bien, mon Fredo. Tu voulais rajouter autre chose? Très très vite, il nous reste 30 secondes. Il y a un petit truc que tu voulais rajouter ou pas, mon Fredo?
Demain, super belle affiche. Betis Séville, adversaire de Rennes contre l'Atlético. L'Atlético qui, en cas de victoire, peut revenir à 3 points du Barça. Et le Real demain soir contre Alavés, c'est encore 8 points, c'est beaucoup. Mais l'Atlético a un très beau
coach. Ça va pas être facile.
Jérôme Thomas me charge de te dire, gare au Betis, car ce soir, Rennes a battu Amiens 1-0.
C'est important, merci pour cette information. Parce que c'est vrai que,
Los c'est Picardos. Vrai que,
non, mais
après, Los Picardos.
On aura l'occasion d'en reparler, mais la chance de Rennes, c'est le manque d'efficacité du Betis, sauf la semaine dernière. Bon, on va voir demain comment ça va se passer face à une excellente défense comme celle de l'Atlético.
Mon Fredo, merci beaucoup. Bravo pour la qualité de tes analyses, comme
d'habitude. Ciao, Fred.
Merci, Fredo.
Oh, là, c'était pas d'analyse, ça, c'était, tu sais,
Fredo, c'est toujours d'analyse.
Correspondant de faire remonter un petit peu la
un petit anka.
Il est parti. Voilà. Muchas c'est gracias,
Ludo Rico.
Hasta luego.
Muchas gracias, Ari. Muchas gracias a los equipos técnicos, a la realizador también, y a Jerome Tomá, con quien no podía hacer esta emisión. Muchas gracias, RMC. El después, el after que se acabó ahora. Hasta mañana.
Hasta luego.
RMC Football Show, l'After Foot.